90,3 Montréal. CKUT.ca.
L'ascension, l'exploration et plus généralement tout geste de pionnier consiste à adhérer au point clé que la nature présente. Gravir une pente pour aller vers le sommet, c'est s'acheminer vers le lieu privilégié qui commande tout le massif montagneux, non pour le dominer ou le posséder, mais pour échanger avec lui une relation d'amitié. Homme et nature ne sont pas à proprement parler ennemis avant cette adhésion au point clé, mais étrangers l'un par rapport à l'autre. Tant qu'il n'a pas été gravi, le sommet est simplement un sommet, un lieu plus haut que les autres. L'ascension lui donne le caractère d'un lieu plus riche et plus plein, non abstrait, lieu par où passe cet échange entre le monde et l'homme. Le sommet est un lieu à partir duquel tout le massif est vu de manière absolue, alors que toutes les vues des autres lieux sont relatives et incomplètes, faisant désirer le point de vue du sommet. Pourtant, elles sont valables selon la pensée magique, parce qu'elles permettent de prendre contact avec ce continent en un lieu privilégié qui est un point clé. L'univers magique est fait du réseau des lieux d'accès à chaque domaine de réalité. Il consiste en seuil, en sommet, en limite, en point de franchissement, rattachés les uns aux autres par leur singularité et leur caractère exceptionnel.
Yeah. Il existe en certains cas une beauté propre des objets techniques. Cette beauté apparaît quand ces objets sont insérés dans un monde, soit géographique, soit humain. L'impression esthétique est alors relative à l'insertion. Elle est comme un geste. La voilure d'un navire n'est pas belle lorsqu'elle est en panne, mais lorsque le vent la gonfle et incline la mâture tout entière, emportant le navire sur la mer. C'est la voilure dans le vent et sur la mer qui est belle, comme la statue sur le promontoire. Le phare au bord du récif dominant la mer est beau, parce qu'il est inséré en un point clé du monde géographique et humain. Une ligne de pylônes supportant des câbles qui enjambent une vallée est belle, alors que les pylônes, vus sur les camions qui les apportent, sont neutres. Un tracteur dans un garage n'est qu'un objet technique. Quand il est au labour et s'incline dans le sillon pendant que la terre se verse, il peut être perçu comme beau. Tout objet technique, mobile ou fixe, peut avoir son épiphanie esthétique, dans la mesure où il prolonge le monde et s'insère en lui. Mais ce n'est pas seulement l'objet technique qui est beau. C'est le point singulier du monde que concrétise l'objet technique. Ce n'est pas seulement la ligne de pylône qui est belle, c'est le couplage de la ligne, des rochers et de la vallée. C'est la tension et la flexion des câbles. Là réside une opération muette, silencieuse, et toujours continuée de la technicité qui s'applique au monde. L'objet technique n'est pas beau dans n'importe quelle circonstance et n'importe où. Il est beau quand il rencontre un lieu singulier et remarquable du monde. La ligne à haute tension est belle quand elle enjambe la vallée, la voiture quand elle vire, le train quand il part ou sort du tunnel. L'objet technique est beau quand il a rencontré un fond qui lui convient, dont il peut être la figure propre, c'est-à-dire quand il achève et exprime le monde. L'objet technique peut même être beau par rapport à un objet plus vaste qui lui sert de fond, d'univers en quelque sorte. L'antenne du radar est belle quand elle est vue du pont du navire, surmontant la haute superstructure. Posée au sol, elle n'est qu'un cornet assez grossier, monté sur un pivot. Elle était belle comme achèvement structural et fonctionnel de cet ensemble qu'est le navire, mais elle n'est pas belle en elle-même et sans référence à un univers. C'est pourquoi la découverte de la beauté des objets techniques ne peut pas être laissée à la seule perception. Il faut que la fonction de l'objet soit comprise et pensée. Autrement dit, il faut une éducation technique pour que la beauté des objets techniques puisse apparaître comme insertion des schèmes techniques dans un univers, au point clé de cet univers.
Thank you.
Les objets techniques ne sont pas directement beaux en eux-mêmes, à moins qu'on ait recherché un type de présentation répondant à des préoccupations directement esthétiques. Dans ce cas, il y a une véritable distance entre l'objet technique et l'objet esthétique. Tout se passe comme s'il existait en fait deux objets, l'objet esthétique enveloppant et masquant l'objet technique. C'est ainsi que l'on voit un château d'eau édifié près d'une ruine féodale, camouflé au moyen de créneaux rajoutés et peint d'une même couleur que la vieille pierre. L'objet technique est contenu dans cette tour menteuse, avec sa cuve en béton, ses pompes, ses tubulures. La supercherie est ridicule et sentie comme telle au premier coup d'œil. L'objet technique conserve sa technicité sous l'habit esthétique, d'où un conflit qui donne l'impression du grotesque. Généralement, tout travestissement d'objet technique en objet esthétique produit l'impression gênante d'un faux et paraît un mensonge matérialisé.
La phanérotechnie est déjà par elle-même esthétique. La tour Eiffel, tour de l'exposition, et le viaduc de Garabit sur la Truyère ont une indéniable force esthétique. À sa naissance, la tour Eiffel n'avait guère de fonction pour justifier son érection, sauf d'être un belvédère élevé, mais elle a bientôt été la meilleure antenne d'émission de France. Elle l'est encore, et même de plus en plus. Les aériens de télévision surmontent son dernier étage et l'agrandissent encore. Garabit sur la Truyère est encore peut-être plus merveilleux par la forme en chaînette inversée de son arc principal et par le scellement dans les rochers des piétements. Et aussi parce qu'il est en pleine nature. Il traverse la nature et est traversé par elle. Et aussi, et encore plus peut-être, par les conditions de sa construction. D'abord, deux demi-ponts parallèles et appliqués contre les deux collines, puis le jour de la jonction, s'il avait fait du vent, ça aurait pu être la catastrophe. Mais il n'y aura pas de vent, avait dit Eiffel. Et en effet, il n'y a pas eu de vent. Les deux demi-ponts tournèrent lentement et simultanément de 90 degrés sous la traction des câbles. Ils vinrent s'appliquer de leurs extrémités l'un contre l'autre et furent verrouillés. Et depuis ce temps, le viaduc existe en son unité, en sa pleine perfection. C'est bien une œuvre de techno-esthétique parfaitement fonctionnelle, parfaitement réussie et belle, simultanément technique et esthétique, esthétique parce que technique, technique parce qu'esthétique. Il y a fusion intercatégorielle.
J'ai affirmé que la machine n'est ni un esclave ni un instrument utilitaire, valable seulement par ses résultats. J'ai enseigné le respect de cet être qu'est la machine, intermédiaire substantiel entre la nature et l'homme. J'ai appris à la traiter non comme un serviteur, mais comme un enfant. J'ai défini sa dignité et exigé le respect désintéressé envers son existence imparfaite. Le geste a été appris comme un rite noble. Les machines étaient 2 tours à bois et à fer, 2 perceuses, une forge, 7 moteurs thermiques et électriques, 1 récepteur de téléphonie hertzienne, 1 émetteur et 1 récepteur de radar, 1 convertisseur, 1 oscilloscope cathodique. Les élèves étaient âgés de 12 à 14 ans. Le plus grave obstacle rencontré chez les jeunes surtout est la tendance au jeu qui privilégie la relation de mise en œuvre avec la machine, faisant de celle-ci un instrument de jeu et affaiblissant la tendance à la construction et la tendance à la contemplation. Par contre, plusieurs élèves ont profondément compris et pratiqué cette prise de conscience de l'être technique, saisissant dans la machine l'histoire humaine déposée et en y ressentant la présence du monde. Je pense n'être tombé ni dans l'amusement ni dans la leçon de choses déguisées et avoir donné à mes élèves une culture technique vraie dans un esprit attentif et sérieux. Le sens de cet effort n'a pas été un apprentissage, même pas un apprentissage varié et, si je puis dire, polyphonique. Dans l'apprentissage, même quand il est très parfait, il subsiste quelque chose de l'aliénation de l'homme devant la matière ou devant la société. L'apprenti est un être mineur qui accepte d'être initié, de se soumettre au statut de la coutume, de la corporation et de la tradition. L'apprenti est un homme qui ne devient majeur qu'à travers l'imitation qui lui est imposée. L'origine de sa propre formation réside en dehors de lui. Quelle que soit la dignité de l'artisan qui a commencé par être un apprenti, il subsiste peut-être en lui quelque chose de l'état d'apprentissage, sous la forme subconsciente du respect de la structure ancestrale dans le geste opératoire.